Méfiez-vous de la culture. La culture, vous savez, toujours au singulier, parce qu'elle a quelque chose d'exclusif. La culture avec un C majuscule, elle serait outrée qu'on lui enlève son caractère très officiel. La culture qui marque, qui définit, qui distingue ceux qui en auraient de ceux qui en auraient pas. Vous savez, on me demande souvent pourquoi je la bouscule, la culture, quand je l'annonce le matin, pourquoi je m'en moque, pourquoi je m'en amuse. Et je réponds qu'il serait bien naïf de croire que c'est un mot neutre. La culture, si on ne la bouscule pas, si on refuse de l'interroger, elle aura toujours quelque chose à voir avec la domination. Ce sera toujours une évidence, la culture, pour certains, dont je suis, depuis que je suis né, des plus privilégiés. Ce sera toujours un luxe pour d'autres. Je me souviens, comme ma grand-mère ne comprenait même pas qu'on puisse choisir d'en faire un métier. Ce sera une arme pour d'autres encore, qui la brandiront chaque fois qu'ils voudront imposer leur autorité. Ce sera une violence, la culture, pour beaucoup, parce qu'elle les exclut et qu'ils n'envisagent même pas qu'ils peuvent y avoir droit. Et pour toutes ces raisons, on permettrait qu'on la secoue un petit peu, qu'on la questionne, cette culture, que l'on affuble d'un C minuscule ici, que l'on met au pluriel et que l'on partage avec passion, tout en sachant qu'il faut toujours s'en méfier.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quoi se méfie mon invité d'aujourd'hui, prix d'interprétation à Cannes il y a 28 ans pour son rôle dans La double vie de Véronique de Krzysztof Kieślowski. Elle est depuis devenue un visage, un sourire, une voix à la fois discrète et incontournable du cinéma français. Son premier livre, Big Bang, apparu récemment, c'est un texte absolument brillant, bouleversant, je dois dire, placé sous le signe de l'invisible. Bonjour Irène Jacob.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec
nous
ce matin. Dans quelle mesure faut-il s'en méfier de la culture pour vous ?
Je crois que c'est vrai que si ça devient un domaine d'élite, c'est vraiment dommage. J'ai vu une archive de l'INA récemment avec des gens qui s'offusquaient du fait qu'il y ait de livres de poche en disant « mais non, il faut que la lecture soit réservée à une élite ». Enfin, je crois qu'en ce moment, je joue Retour à Reims de Didier Ribon et il y a dans le public énormément de lycéens. Et je me dis « c'est un moment avec les lycéens, le service public ». Le service public, on peut enfin aussi démocratiser aussi complètement l'accès au théâtre. C'est important, on voit beaucoup de lycéens qui viennent pour la première fois au théâtre, qui découvrent ce que c'est et vraiment...
Parce que l'accès au théâtre n'est pas évident, de la même façon
non.
que l'accès à la culture n'est pas évident.
Oui, c'est vrai qu'on a besoin de sentir que ça parle aussi de nous, que c'est pas quelque chose qui parle des autres, que cette culture-là, on en fait partie.
Dans une société comme la nôtre, aujourd'hui en particulier, une société où se creusent les inégalités, que pourrait la culture et ce qui en sont les artisans, c'est-à-dire les artistes.
Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ?
Ouais.
Je crois qu'il faut l'apporter effectivement de la façon la plus... se tenir au courant de tout ce qui se passe, je dirais, aujourd'hui, dans les rues, partout, sentir un peu, et puis venir donner sa réponse avec le plus de présent possible, le plus de... Moi, j'aime bien, dans la culture, le côté live. Le côté, c'est vivant, c'est présent, c'est maintenant, et essayer de trouver quelque chose qui se passe ensemble à ce moment-là.
D'où votre choix de l'art vivant, quel théâtre ?
L'art vivant, mais le cinéma aussi est un art vivant parce que ça se passe sur l'instant, il faut que les choses s'inventent au moment même. Mais je crois que n'importe quel geste qui se fait, l'écriture aussi, se fait avec ce moment où tout d'un coup on essaye que ça se passe un peu dans du live, que quelque chose se passe.
De s'emparer en fait de la réalité, ce que faisait Thomas Ostermayer dans cette adaptation pour le théâtre du livre de Didier Ribon, Retour à Reims, oui. dans lequel vous jouiez, et qui évoquait frontalement le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi c'était important ?
On a commencé à répéter au moment où le mouvement des Gilets jaunes commençait, et ça nous a paru évident que ça serait bien de pouvoir en avoir une partie, en fait, en parler dans une partie du spectacle. Et on en voit des images, on en parle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, quand on porte ce spectacle à travers beaucoup de villes de France, les gens sont très touchés de voir. Ils disent, mais c'est ce que je vois à la télé, c'est ce que je vois dans les rues, mais là, j'ai l'occasion d'en parler, d'y réfléchir.
Parce que c'est pas toujours le cas au théâtre. Est-ce que vous diriez que l'art et les artistes sont suffisamment en prise avec le réel, Irène Jacob ?
Alors, il y en a certains qui aussi défendent aussi la vision d'un art aussi complètement aussi abstrait aussi ou non réaliste. Ou l'important, je crois, c'est d'être en connexion avec quelque chose de très sincère, de vivant, parce qu'après tout, on est tous traversés, en tout cas, par la vie et on peut y répondre le plus sincèrement possible. En tout cas, le théâtre. Pour le coup, de Retour à Reims de Didier Ribon était un théâtre qui s'intéressait beaucoup aux revendications sociales, à la montée de l'extrême droite, et donc il fallait aussi être en prise avec les revendications sociales, avec les mouvements, comme un mouvement comme les Gilets jaunes, qui est un mouvement fort qu'il faut écouter.
Qu'est-ce qui vous donne espoir, vous ?
Ce qui me donne espoir, je crois, c'est de retrouver... un tissu social, enfin de retrouver une, de sentir un petit peu qu'on, une solidarité qui doit se manifester à nouveau, qu'on arrive à la fin peut-être d'une période individualiste, de privatisation, où on roule à 260 sur des autoroutes de l'enrichissement, enfin sans borne, en laissant de côté une marge de personnes qui savent, que ce soit pour la culture ou pour la vie, tout simplement, qui veulent juste un petit peu de place, en fait, d'être de nouveau au centre, justement, et du débat et de la culture, enfin, d'être là.
Les gens qui rêvent aussi, les gens qui rêvent vous donnent espoir, Irène Jacob ?
Les gens qui rêvent, si leur rêverie est, si leur rêverie est, c'est, enfin, est bonne, enfin, je veux dire, hein, parce qu'il y a des rêves qui sont un peu particuliers, mais je crois qu'en fait, le fait de, ouais, les gens qui sourient, alors, les gens qui aiment me donnent espoir.
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. I have a dream today. I have a dream that one day we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will...
Le frisson de la voix de Martin Luther King, Irène Jacob. Je vous parlais de gens qui rêvent parce que c'est vous qui l'avez choisi.
Oui.
Cette voix, qu'est-ce qu'elle incarne pour vous ?
Elle incarne un espoir fou, un amour fou, une force incroyable. Il va soulever des foules, il va donner espoir, il va redonner sens aussi à beaucoup de gens qui se sentent plus du tout, qui comprennent plus, en tout cas qui comprennent plus le sens de la vie aussi, le sens de la lutte. Il va donner aussi une voix ensemble. Et puis c'est aussi, il a obtenu aussi beaucoup de résultats, Martin Luther King. Et mais c'est un, moi j'ai son livre chez moi, La Force d'aimer, où il y a beaucoup de sermons où chaque fois il doit redonner espoir après des défaites sociales terribles, et il le fait avec des mots, justement. Enfin, c'est un orateur aussi extraordinaire, et puis un homme d'amour, tout simplement.
Justement, quand vous voyez des gens marcher, que ce soit pour le climat, pour protester contre les violences faites aux femmes aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'elle évoque, la foule, pour vous ?
Ben, d'abord, je crois, tout d'un coup, l'occasion de se dire, mais on est beaucoup. Oui. En fait, on pèse, on est ensemble, on n'est pas seul. Donc déjà, il y a ce sentiment de solidarité, un sentiment de on se sent porté par le fait d'être autant. Il y a une énergie qui vient de là. Et puis, oui, c'est, je crois aussi qu'il y a aussi du courage aussi de marcher, enfin de en ce moment aussi, c'est vraiment l'importance de descendre et de se dire, ben voilà, j'ai envie de peser, j'ai envie d'être au centre du débat, j'ai envie de sentir qu'avec moi il y a tous ces gens, et me sentir forte de cette énergie, de cette marche-là.
La grande marche du 23 novembre, par exemple, contre les féminicides, où on a pu voir nombre de comédiennes, d'ailleurs. Mmh. La domination masculine s'exerce partout, y compris dans les métiers du théâtre et du cinéma. Irène Jacob, depuis les débuts du mouvement MeToo, il y a 2 ans jusqu'à aujourd'hui, à quoi vous avez eu le sentiment d'assister, vous, en tant que femme, en tant que comédienne aussi ?
À une parole qui s'est vraiment libérée, de la part de beaucoup de personnes qui ont osé la prendre, et qui l'ont faite avec beaucoup de courage. Encore récemment, Adèle Haenel, mais encore toutes ces personnes qui disent, voilà, j'ai besoin de dire que je veux plus que ça, que par ma parole, empêcher que ça puisse se reproduire, parce que le silence est trop permissif, en fait. Le silence bâillonne, le silence étouffe, le silence permet aussi.
Vous l'avez vu, ce silence, autour de vous ?
Si vous voulez dire, si moi j'ai assisté à des situations, je peux dire que j'ai eu la chance de ne pas avoir été confrontée à des situations où on me force, où on m'enferme, j'ai des enfants et je pense à eux. Enfin, je veux dire, chaque fois je me dis, mais c'est important de savoir que on peut dire non, et qu'on a le droit de dire non, et que ça doit s'entendre, ça, en fait.
En ce sens, c'est un moment historique à vous entendre, cette libération de la parole.
Cette libération de la parole, elle est très importante. C'est une libération qui, petit à petit, gagne plusieurs domaines. On sent aussi que ça libère beaucoup de choses dans le droit que chacun se sent de dire de son consentement, de son appropriation des choses, de d'adhérer ou pas, d'être en amour ou pas, d'être en fait.
Et dans les métiers du cinéma, de façon très concrète, quand est-ce que vous avez commencé à rêver de cinéma, tiens?
Oh, alors en fait, j'ai rêvé de théâtre très jeune parce que je savais pas que j'allais un jour rencontrer le monde du cinéma. Ça me paraissait dingue en fait. Mais j'ai commencé, j'ai fait partie d'un groupe amateur et très vite, en fait, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à faire une télévision en Suisse où j'habitais.
Et quand vous avez commencé à travailler, justement, le rêve est-il à la hauteur de vos attentes?
Ah ben alors oui, c'est-à-dire qu'ensuite j'ai fait la rue Blanche à Paris, et là donc une école pendant 3 ans, on travaille tous les grands auteurs, et on sort de l'école, et puis au début on se dit mais est-ce que je vais trouver la même passion qu'on a dans une école où on cherche avec plusieurs étudiants, avec des nouveaux, enfin avec notre langage à nous.
Et alors?
Et puis très vite j'ai eu plus que je ne rêvais, puisque après avoir été fait 2-3 expériences qui n'étaient pas tout à fait ça, tout d'un coup j'ai rencontré d'abord Louis Malle pour avoir les enfants, puis Christophe Kieslowski pour Double Vie de Véronique et Rouge, et puis d'autres à ce moment-là qui m'ont au contraire porté là où jamais j'aurais imaginé pouvoir un jour accéder dans le jeu, dans une manière de raconter une histoire, dans le courage, dans l'invention, enfin ouais, vraiment.
Celle qui ne nous emmène absolument pas ailleurs dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, Irène, c'est la culture, c'est une actualité peu fiable, surtout quand on la confond dans cette émission. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 29 novembre?
The Queen is an extraordinary person.
Look at me! How dare you! Close your eyes!
Lundi 9 décembre, en l'occurrence.
Parce qu'on devait se voir le 29.
Exactement. C'était le jour où on devait se voir, Irène. Ouais. Une favorite qui porte bien son nom, la 32e cérémonie des European Awards qui s'est tenue samedi à Berlin, a fait un triomphe au long métrage du grec Yorgos Lanthimos, La Favorite, qui repart avec 8 récompenses, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur. Les Français Ladjli et Céline Sciamma étaient aussi de la partie, vainqueurs respectivement du prix de la découverte et de celui du scénario. Bravo les cocos.
Non, mais laissez-moi.
Totalement scotchant, $120 000, c'est la somme extravagante qu'a dépensé un collectionneur français à Art Basel, Miami, ce week-end, pour s'offrir la dernière œuvre du plasticien italien roi de la provoque, Maurizio Catalan. Jaune, un peu trop mûr, scotché sur un mur, l'œuvre est une simple banane, intitulée Chameleon. Elle a même été mangée par David Datuna, un autre artiste, dans une performance improvisée titrée « Artiste ayant faim ». Tout va bien dans l'art contemporain. Ciao, Odo, l'acteur américain d'origine franco-suisse, René Aubergenois, s'est éteint à Los Angeles à l'âge de 79 ans. Il s'était rendu célèbre en incarnant dans les années 90 le personnage de Odo dans Star Trek Deep Space Nine. Élevé entre Paris et New York, l'acteur avait lancé sa carrière à Broadway au milieu des années 60. Alternant ensuite cinéma et séries, René Aubergenois avait notamment joué dans les films MASH de Robert Altman. Cac, bye, René.
I'm very happy to introduce to you the laureates of the 2019 Nobel Prize in Literature, Peter Handke.
Et enfin, le monde est mourant et nous ne le remarquons pas. Lauréate du prix Nobel de littérature 2018, l'écrivaine polonaise Olga Tokarczuk a livré un discours percutant à Stockholm samedi. Écologiste, végétarienne, engagée, elle a déploré l'individualisme contemporain. Dans le même temps, le lauréat 2019, Peter Handke, dont les positions politiques pro-serbes avaient fait polémique au moment de sa nomination, a rendu hommage à la création et aux artistes qui l'ont inspiré, citant notamment Johnny Cash, Leonard Cohen ou John Ford. Mais notre invitée ce matin, c'est la comédienne Irène Jacob, invitée de Boomerang pour son livre Big Bang, un roman très personnel dans lequel vous racontez à la fois le deuil suite à la disparition de votre père physicien et la promesse d'une vie, d'un enfant, celui que vous portiez en vous. Quel homme était-il, votre père, Irène?
Je crois que j'avais fait un portrait sur lui, sur les physiciens que j'ai rencontrés dans mon enfance, puisque j'habitais à côté du CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire, à Genève. Il était dans la physique quantique, c'est-à-dire, à ce moment-là, les nouvelles questions qui étaient l'origine de l'univers. Alors, qu'est-ce que tu cherches, papa? Bon, ici, on recherche l'invisible. Alors, évidemment, tout ça, ce sont des mots qui choquent, qui évoquent beaucoup. Et j'ai trouvé dans ces physiciens énormément une liberté de pensée qui me paraissait dingue. On parle de 23 dimensions, peut-être qu'il n'y a plus de temps, la force faible, la matière cachée, on connaît 5% de l'univers. Et alors, on voit en même temps une connaissance immense, une possibilité incroyable d'imagination, et en même temps, on sent un grand respect de tout ce qu'on ne sait pas.
C'est drôle, parce que j'allais vous demander qu'est-ce qu'il vous a appris, et au fond, j'ai l'impression qu'il vous a aussi appris à cerner
tout ce qu'on ne sait pas.
Et à vous intéresser à l'invisible, c'est ça? Qu'est-ce qui est si fascinant dans ce qu'on peut pas voir, Irène Jacob?
Je crois que la majeure partie des choses, on ne peut pas les voir, mais on peut les sentir parfois. Et on se laisse traverser par des moments où on sent la densité de la vie ou autre chose d'une manière un peu plus forte. Puis hop, on se refait rattraper par la quotidienneté, les choses à faire, etc. Et on perd ce sens-là. Mais je dois dire qu'il y avait des moments où j'avais l'impression que l'infini de l'univers pouvait rejoindre l'infini des êtres et de ce qu'on ne comprend pas, et ceux pour lesquels on n'a pas de mots et ceux pour lesquels on ne sait pas.
Ça vaut aussi pour l'absence, même après son départ, votre père, même si vous ne le voyez plus, il est toujours là.
Oui, l'idée de pouvoir parler à quelqu'un d'absent parce qu'il est parti, et puis de pouvoir parler aussi à quelqu'un qui va venir parce qu'il est dans le ventre et que dans 9 mois, il sera là. C'est vrai qu'au moment de l'écrire, je jouais la voix humaine de Jean Cocteau, et j'étais une femme amoureuse qui s'adressait au téléphone pendant 45 minutes à un amant qu'on
ne
voit pas.
Incroyable monologue.
Voilà. Oui. Et je me disais, cet invisible était très important pour moi, ce moment où on s'adresse sans savoir si notre parole va être reçue. Mais on s'adresse avec beaucoup de force parce qu'on en a besoin.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on sent grandir une vie à l'intérieur de soi?
On sent d'abord un rapport avec le mystère, avec l'origine, avec quelque chose de beaucoup plus grand. On se dit, mais enfin, cette naissance se prépare peut-être depuis des milliards d'années. Ouais. La voilà dans mon ventre, comme moi je fais. Voilà, je serai la transmission voilà.
Mais c'est la question que j'allais vous poser. Combien de vie y a-t-il à l'intérieur de vous, Irène Jacob, à votre avis?
Ah, bah, bien sûr, bien plus que la nôtre, en fait, qui nous traverse. C'est ça. C'est-à-dire que on est soi, bien sûr, mais traversé de tous nos ancêtres, de toutes notre histoire, de tout ce qu'on... de beaucoup de choses.
Il y a la vie des personnages que vous avez incarnés aussi?
Ah oui, bien sûr.
Qui restent?
Ah oui, bien sûr. C'est vrai qu'au moment d'écrire le livre, donc je jouais la voix humaine, c'est vrai, ça m'a beaucoup touchée aussi, cette adresse comme ça, un amant qu'on ne voit pas, c'est très important pour moi, mais je joue aussi la maladie de la mort de Duras, puis là, le retour à Reims, Didier Ribon. Donc tout ça, ce sont des... quand on joue une pièce pendant un an, on est avec ces mots comme un texte ami dans la poche, et ces mots, au bout d'un moment, infusent, et c'est une grammaire qui nous rentre vraiment...
Alors, en fin de compte, en écrivant ce livre, Big Bang, qu'est-ce que vous avez essayé de rendre vivant?
J'avais envie de parler beaucoup d'un moment où on est traversé par la vie d'une façon plus dense et plus large que habituellement. Alors le deuil et la naissance en ont certainement un, mais à travers le deuil, du coup, je parle de la physique quantique, parce que la physique quantique est un moment où les lois sont permises. On peut être là et pas là en même temps, oui. Mais on peut aussi ne pas exister là et pas là. On peut donc, il y a la possibilité de ce mystère, en fait. On peut contenir beaucoup de choses. Et la naissance et le deuil, ça échappe au temps, enfin comme beaucoup d'autres choses. Mais ce sont des moments qu'on peut bien comprendre, ça. Et j'avais envie de, voilà, à travers un portrait un peu familial, raconter en fait une histoire de ce que c'est que la transmission, ce que c'est que des liens invisibles en fait qui nous relient aussi, qu'est-ce que c'est que des lois, enfin, de l'univers qui nous correspondent, parce que l'infiniment petit rejoint l'infiniment grand. Alors ça paraît banal, on le sait tous maintenant, mais c'est quand même merveilleux de se dire qu'alors l'intime peut rejoindre voilà quelque chose de plus large.
Et tout ça avec des mots, c'est vivant un mot?
C'est très vivant. Alors là, je dois dire que j'ai découvert avec l'écriture la même l'adrénaline que pouvait porter un mot, la façon dont ça peut s'exprimer physiquement sur le corps. On peut avoir des plaques rouges, se sentir fatigué, le cœur qui bat. Il y a quelque chose de très, très, très vivant, en fait.
Et puis, c'est votre histoire aussi, puisque je sais que dans votre famille, il était important de dire de la poésie, Irène Jacob.
Oui, alors j'avais... c'est-à-dire que la poésie, ce que j'avais envie de raconter aussi à travers la poésie, c'est que parfois, elle nous devance. Comme je cite à un moment cette phrase de saint Augustin, la foi précède, la compréhension suit. Mais parfois, les mots d'une poésie, on les dit sans les comprendre, et puis on les comprend bien plus tard. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce poème, on le sait par cœur depuis qu'on a 7 ans, et puis on l'a jamais compris. Et tout d'un coup, le sens vous parvient et vous rattrape alors que vous avez 37 ans, et vous dites, oh, mon Dieu, ben enfin, c'est ça que je disais. Enfin, ça...
Donnez-moi un exemple, vous pensez à quel poème?
Bon, alors là, je parle effectivement dans le livre de La beauté de Baudelaire, par exemple. Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre. Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour immortel et muet comme la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études, car j'ai, pour attirer mes dociles amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles. Alors ce poème, La Beauté,
c'est magnifique, hein,
de Baudelaire, j'avoue que...
Que vous récitez, je dois dire quand même aux auditeurs que vous ne l'avez pas en face des yeux.
C'est un
contrairement
poème...
à moi qui ai des notes.
Non mais je racontais que c'est un poème que j'ai appris presque malgré moi, dans le sens que je l'ai appris très tôt, sans le comprendre, en pensant que je devais incarner une beauté comme ça, droite, froide. Pourquoi j'ai appris tellement d'autres poèmes par la suite que je préférais, que j'avais envie, élévation, des poèmes qui me paraissaient beaucoup plus, comment dire, lumineux que celui-ci, mais celui-ci me restait, alors qu'il était dur. Et un jour, je me suis dit, mais comment ça se fait que le seul poème est vraiment que je peux dire en avant, en arrière, sans même que ça soit La Beauté de Baudelaire, j'ai réalisé qu'il y avait un lien avec ce poème. Ça pouvait être la sublimation d'un enfant qui est aussi devant sa muse, d'une maman, d'une mère, enfin, qui déprimée. Et du coup, jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Et le poète va être se cogner contre ce sein de pierre. Et donc, voilà, j'avais envie de parler de la maternité aussi avec ça, avec cette beauté de Baudelaire.
Alors donnons la parole à La Beauté et à un poète, Irène Jacob. On écoute Léonard Cohen, dont un album posthume vient de paraître. Vous le savez peut-être, j'ai choisi la plus belle des chansons d'amour. C'était en 1968. So Long Marianne, vous êtes sur France Inter, voilà, avec Irène Jacob. Donc vous écoutez Boomerang,
merci,
évidemment.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try. Forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne. It's time that we began to laugh. And you'll find spider web.
is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, and we began to laugh and cry and cry and laugh about it all.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est vrai que quelque part, on est entre la tête couronnée et le prix Nobel de physique. Un sourire polyglotte, l'œil magnanime, sans une once de méchanceté, le cheveu généreux d'une douceur helvétique. Elle est de celle à qui il est impossible de chercher querelle, celle qui saura toujours vous désarmer d'un regard, celle qui apaise les tensions et fait fleurir des traités de paix. En veux-tu, en voilà, elle est l'atout diplomatique de ce lundi, avec son chemisier 70s, plein de nénuphars, la comédienne Irène Jacob, invitée de Boomerang pour Big Bang, ce livre dans lequel vous revenez sur des souvenirs d'enfance, mais aussi sur ceux qui ont suivi la disparition de votre père et précédé, on le disait, la naissance de votre fils. Un livre dans lequel, ça ne m'a pas échappé évidemment, vous parlez d'un autre livre de Lewis Carroll, qui est Alice au pays des merveilles. Pourquoi ce livre vous a-t-il tant marqué ?
C'est parce que il y avait beaucoup de choses. D'abord, Lewis Carroll, c'est vrai qu'il a été, avant d'être aussi le grand écrivain qu'on connaît, un grand mathématicien. Et je trouve que dans son livre, effectivement, il y a ce passage, par exemple, où Alice discute avec un chat et puis le chat disparaît petit à petit.
Le chat Cheshire.
Voilà, et ne laisse plus que son sourire. Et ça énerve Alice de devoir discuter devant un chat qui disparaît. Et mon père disait effectivement que dans les physiciens, quand ils font colliser, enfin quand ils font se rencontrer des particules, dans le choc, elles explosent comme ça mutuellement. Mais il y a petit à petit des traces invisibles de certaines composantes de cette particule qui apparaissent. Et comme le sourire du chat, c'est-à-dire que avant de disparaître. Et on se dit, tiens, mais il y a une présence avant disparition. Et le mot présence avant disparition m'a beaucoup touchée aussi par rapport au deuil, par rapport à l'invisible aussi, de se dire qu'il reste le sourire. La personne n'est pas là, mais il reste quelque chose. Et c'est ce qu'on cherche derrière, on traque la signature de l'invisible. Mais Alice, ensuite, a donné son nom à un des détecteurs du grand accélérateur du CERN, qui c'est Hadron and Collider. And Hadron, Alice, ouais, Experiment, Collision Experiment. Mais c'est vrai que bon, c'est pas un hasard. Je me disais que voilà, mon père, je sais qu'il avait fait partie de ceux qui ont nommé ce détecteur, et je crois qu'il avait envie de donner un hommage à Alice au pays des merveilles.
Qu'est-ce qu'il y a, à votre avis, de l'autre côté du miroir?
de l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir, je crois qu'il y a notre psyché, il y a nous, il y a toute notre histoire de notre humanité.
Il y a une menace aussi, Irène Jacob.
Le monde d'Alice au pays des merveilles fait très peur. Parfois, il y a des traînes complètement folles qui veulent couper la tête à tout le monde. Il y a en fait un moment où on devient en même temps grand et petit. Elle est complètement, rien n'est complètement paisible. Et bien sûr, il y a beaucoup d'inquiétudes dans le monde d'Alice au pays des merveilles.
Qu'est-ce qui vous inquiète, vous ?
Qu'est-ce qui m'inquiète ? La montée de la haine, ça c'est sûr, ça m'inquiète vraiment, la montée des extrêmes droites, la montée de la précarité de plus en plus d'une marge de population. Notre tissu social, je trouvais très...
Je vous pose la question, Irène Jacob.
Moi, ça m'inquiète.
Le texte que vous présentez est quelque part tout entier travaillé par une forme d'inquiétude face à la dépression aussi qui s'est enracinée chez plusieurs membres de votre famille. Comment est-ce qu'elle est née, cette inquiétude centrale?
L'inquiétude, parce qu'effectivement dans le livre, je parle de la dépression qui est en fait aussi une force... qui est très difficile à comprendre, en fait. On comprend pas comment un jour, tout d'un coup, on n'aperçoit plus le soleil sur un jardin. Enfin, tout d'un coup, ça nous paraît... on ne comprend plus le sens, alors qu'on le comprenait. C'est comme si on était à bicyclette et tout d'un coup, on savait plus pédaler,
en fait. Qu'est-ce qui peut rassurer ça? Parce que incarner des personnages, ce que vous faites en tant que comédienne, est-ce que c'est pas en permanence prendre le risque de basculer?
Oui, c'est vrai. J'avoue que chaque fois qu'on dit les mots d'un rôle, on prend en charge aussi ce qu'il ressent, sa peine, on doit se laisser traverser par ça, et on en ressort aussi avec des vertiges ou des tremblements. Enfin, c'est pas non plus... mais peut-être qu'à ce moment-là, on se sent connecté ou en connexion, ou en contact plutôt, voilà, voilà, avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une autre main qui a senti comme nous les mêmes choses, qui ressent les mêmes choses. Et du coup, comme dans les marches, on se sent porté par une énergie plus grande que la nôtre, enfin, d'un autre auteur qui a pensé ça, qui a écrit ça.
Alors, on peut préférer une vie à l'équilibre parfois instable à une vie sans intensité, à une vie sans émotion, à une vie sans vie, en fait.
Est-ce qu'on peut préférer ?
Oui, c'est ce que vous proposez.
De quoi ?
J'ai l'impression.
De ?
Ben, une vie à l'équilibre un petit peu instable.
Ah
parfois.
Oui, mais voilà, une vie à l'équilibre instable. C'est-à-dire que ben, les physiciens ont ce très beau mot dans la physique quantique, la force faible. Et je trouvais ça très beau de se dire, effectivement, c'est une force faible. Celle qu'on entend aussi de Martin Luther King. Enfin, je veux dire, c'est une force qui n'utilise pas la force, mais qui utilise la faiblesse. Qui dit, voilà, c'est dans nos parties faibles, il y a aussi quelque chose qu'on peut écouter, on peut se rassembler, on peut s'aimer, enfin...
Vous nous avez fait un cadeau, Irène Jacob, pour terminer cette émission, un extrait des Pérégrins de la Polonaise, Olga Tokarczuk, récompensée cette année par le prix Nobel de littérature. Vous avez souhaité nous lire ce matin un extrait de ce texte et on vous écoute.
Partout et nulle part. Quand je suis en voyage, je disparais des cartes. Personne ne sait où je suis. Suis-je à mon point de départ ou déjà sur le lieu de ma destination ? Est-ce qu'il existe un entre-deux ? Suis-je comme ces heures du jour escamotées lorsque l'avion va vers l'est ? Ou comme la nuit qui fuit quand l'avion vole vers l'ouest ? Est-ce que j'obéis à la même loi que celle dont aime se prévaloir la physique quantique ? À savoir qu'une particule peut exister dans deux endroits en même temps ? Ou peut-être à une autre loi, encore ignorée, donc non étayée par des preuves, faisant qu'on peut doublement ne pas exister en un seul et même lieu ? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, des personnes disparues, absentes, qui apparaissent subitement dans les terminaux des aéroports, dans les zones d'arrivée, et qui ne commencent à exister qu'une fois leur passeport dûment tamponné par les employés de la police des frontières, ou bien quand une aimable réceptionniste d'un hôtel leur aura remis les clés de la chambre. Sans doute ces gens-là se sont-ils déjà rendus compte que leur être était instable et fortement soumis au lieu, aux heures de la journée, à la ville, à son climat et à la langue du pays ? La mobilité, la variabilité, le caractère illusoire de ce qu'il entreprend, voilà ce qui caractérise l'homme civilisé. Je pense aussi que le monde se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, niché dans les circonvolutions du cerveau, dans l'épiphyse plus exactement. Il est cette petite boule coincée dans la gorge. À vrai dire, il suffirait de tout sauter et de le recracher.
C'est un très beau texte, Irène Jacob, du prix Nobel de littérature, Olga Tokarczuk. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi ?
Je l'ai découvert récemment. J'ai lu quelques extraits avec Olga à une soirée de l'Odéon pour sa remise du prix Nobel. Et voilà. Et j'avoue que j'ai adoré ce livre. Et j'ai choisi. Je dois dire que c'est vraiment une très très grande écrivaine.
Qu'est-ce qu'elle touche du doigt ? Pour vous.
Eh bien, je trouvais, dans ce passage que j'ai choisi, effectivement, je me disais, tiens, je lui ai dit, mais alors, vous êtes aussi intéressée par la physique quantique. Elle disait, oui, il y a trop peu de littérature qui s'en sert. Je disais, mais c'est vrai que le fait qu'elle dise, voilà, on est, est-ce que le monde est devant nous et le monde est peut-être à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on peut ne pas être dans plusieurs endroits en même temps? C'est quand même très, très drôle de penser des choses comme ça. C'est une façon de penser la vie, la mobilité, notre humanité aussi d'une façon très, très large. D'ailleurs, elle dit, on peut pas décrire le monde de façon réaliste. Et j'aime bien cette idée, effectivement, qu'il faut d'autres termes, il faut d'autres élans. En tout cas, ce livre, Les Pérégrins, m'a vraiment beaucoup touchée.
C'est peut-être ça, la grâce de la littérature. Merci tellement, Irène Jacob, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Big Bang, donc, est publié aux éditions Albin Michel. C'est vraiment un très beau texte, lumineux, très lucide aussi, assez bouleversant. Tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia Deville. Qui m'entend sans doute, Sonia.
Évidemment, Augustin, que je vous entends.
À 9h40, précise.
Précise.
Ouais, je l'embrasse.
Oh, il y a Eric Judor qui vous dit bonjour.
Ah, moi aussi, je l'embrasse, Eric Judor. Vive Platane.
Bien, 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 bien. Salut.